Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bonjour à ceux qui nous visitent. Que la paix du Seigneur nous accompagne durant le moment où nous écoutons sa parole. Vous allez bien? Amen. Bon. Avec la grâce de Dieu. Je vous avoue, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, je suis plus vers le bas que le haut. Mais Dieu fait grâce. Dans toutes mes difficultés actuelles, j'ai pu parler à une collègue. C'est une collègue qui... Elle est joyeuse. Elle est tout le temps joyeuse. Ce n'est pas une enfant de Dieu. Mais c'est une femme qui est tout le temps joyeuse. Et ces derniers temps, la joie est partie. Puis dernièrement, à la fin du service, on va prendre notre voiture pour rentrer. Je me suis dit non, il faut, même si je ne suis pas bien, mais il faut que je lui pose la question. Elle s'appelle Dominique. Je lui dis, Dominique, tu as perdu ta joie de vivre. Elle m'a dit, t'as remarqué? J'ai dit, oui, j'ai remarqué. Et elle m'a dit, j'ai des problèmes en ce moment. Vous voyez que nous tous, nous pouvons avoir des soucis dans la vie. Mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a réconforté, sa réponse. Elle m'a dit, mais ça va revenir. Je vais reprendre le pas. Je vais reprendre le dessus. J'ai dit, wow. Et puis après, à la fin, elle m'a dit merci. Si je n'avais pas affronté cette fille en lui disant, en lui demandant en fait ce qui n'allait pas, mais peut-être qu'elle serait partie chez elle encore triste. Mais ce qui fait la différence, c'est l'état de notre cœur. Et c'est aussi l'espérance que nous avons. Son espoir, c'était que ça ira mieux demain. Et quand nous passons par des moments difficiles, notre espoir est en Christ. Et ça ira mieux demain, comme dirait la chanson. Avant de commencer notre message, pour tous ceux qui auraient oublié d'éteindre le portable, bah c'est le moment de le faire. C'est vrai que parfois, c'est désagréable. On ne le fait pas exprès, on oublie, mais parfois, c'est désagréable d'entendre les portables sonner à tout va. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, éteignez les portables. Pourquoi tu me regardes? Tu te sens visé? Autre chose. Pasteur, dimanche dernier, dans sa prédication, il a parlé de Bible. Et il a dit, souvent nous utilisons les smartphones. Il parlait des vacances. Il disait de partir avec une Bible au lieu de partir avec le smartphone, parce que si le smartphone tombe en rade, ben on n'a plus de Bible. Et à l'époque, je me souviens, on n'avait pas ça à la projection. Et tout le monde ouvrait sa Bible. Mais aujourd'hui, vous allez ouvrir votre Bible. Pas de projection. Et je ne vais pas vous faire beaucoup travailler. Et vous allez l'ouvrir quand même. La présence de Dieu, une puissance pour le croyant. La présence de Dieu, c'est une puissance pour le croyant. Le Proverbe 4, 23, nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Jérémie 17, au verset 9. Je vais trop vite. Vous voyez, ça vous permet aussi d'avoir Jérémie 17 au verset 9. Je laisse le temps. Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9 nous dit, le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? On parle de présence de Dieu, mais on parle aussi de non-présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, Dieu a suscité des prophètes, et ces prophètes étaient là pour parler au nom de Dieu. Ils n'étaient pas là pour parler en leur nom, bien qu'il y en ait eu qui ont voulu parler en leur nom. Mais les vrais prophètes de Dieu étaient là pour parler au peuple, au nom de Dieu. Et parmi ces prophètes, il y avait Jérémie. Jérémie qui commence son ministère aux environs de 627 avant le Christ. Et le frère Raymond a prié tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, mais aussi dans le monde. Hein. Mais puisque nous sommes en France, nous essayons de regarder d'abord ce qui se passe chez nous. Et il a parlé de toute cette violence. Il a prié pour que ces jeunes puissent arrêter leur violence. Parce que en détruisant les mairies, en détruisant les écoles, en détruisant tout ça, ça ne nous rapporte rien. Et au contraire, ça peut mettre les gens au chômage. Parce que quand j'ai vu, ils ont détruit un magasin, comment les gens iront travailler ce lundi? Quand nous regardons les infos, actuellement, écoutez, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. On observe beaucoup de violence, des meurtres. Il y a la guerre. Un petit peu plus loin, pas loin de chez nous, on entend des féminicides, des infanticides. Waouh! Chaque jour que Dieu fait sur cette terre nous fait découvrir un monde pas, non pas meilleur, mais qui va de pire en pire. Et le Seigneur Jésus nous avait prévenu, hein? Nous sommes en plein dedans. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, ouvrez les yeux et voyez ce qui se passe. Et même au sein de notre église, je ne parle pas de Créteil, hein, je parle des églises en général, ben, nos comportements parfois sont pas les meilleurs non plus. Le comportement ne donne pas forcément gloire à Dieu. L'Ecclésiaste nous disait déjà qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Ecclésiaste 1, verset 9. L'Ecclésiaste, pour certains, ça a été écrit par Salomon. Pour d'autres, ce n'est pas Salomon. Mais si c'est Salomon qui l'a écrit, ce livre, il faut se dire que ça a été écrit aux environs de 930 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas maintenant. Ça fait bien, bien longtemps que ça a été écrit. Ecclésias 1, verset 9. Écoutez ce qu'il disait déjà, bien longtemps avant. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, quand nous voyons peut-être des émeutes comme ça, ça existait déjà bien avant nous. Autant de Jérémie, qui a vécu environ 627, j'ai dit, avant le Christ, le monde n'était pas meilleur. Pour preuve, il disait déjà au chapitre 6 et au verset 13, il disait, « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. » Et il dit, « Depuis le prophète. » C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que souvent, ce n'est pas les vrais prophètes, mais il y a aussi des vrais prophètes qui faisaient partie de cela. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Les sacrificateurs aussi étaient dans cette mauvaise voie. Tous usent de tromperie. C'est ce que nous disait Jérémie. Avec nos petits versets du début, le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Il est incurable. Quand on voit ce que Jérémie fait, Jérémie dresse un portrait du cœur de l'homme. Il souligne comment le mal est ancré vraiment dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas parce que nous venons, nous, à l'église, que nous sommes pareils aussi. Hein? La différence, c'est que nous avons la grâce de Dieu avec nous. On ne va pas reparler du cœur parce que le pasteur l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps et vous connaissez le cœur, c'est pas le... Mais on va quand même le dire parce que parfois il y a des gens ou des personnes qui nous visitent et qui ne savent pas et qui auraient pensé que le cœur c'est l'organe. Alors pour toutes ces personnes, le cœur c'est pas l'organe. Le cœur c'est tout l'être entier de l'homme. Tout ce qu'il y a de l'intérieur, tout l'être de l'homme. C'est de ça qu'on parle quand on dit le cœur. Et c'est de ce cœur que proviennent les bonnes intentions comme les mauvaises intentions. Les mauvaises choses comme les bonnes choses. Et c'est pour ça que Salomon nous disait de faire attention à notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et vous savez, l'homme parfois peut être blessé. Le cœur de l'homme peut être blessé. Et parfois, quand ce cœur est blessé, le cœur ne peut pas recevoir l'amour. Il ne peut pas donner l'amour non plus. Quand une jeune fille, par exemple, est violée, parce qu'on entend ça tout le temps maintenant, hein, ça, on dirait que c'est devenu un truc banal. Quand une jeune fille est violée, après, il est difficile pour cette jeune fille de donner son cœur. Il est difficile pour cette fille de... Quand elle va se marier, avec son conjoint, ça peut être compliqué aussi. Moi, j'ai une amie qui a été violée, et je peux vous dire que violée par son voisin, hein, je peux vous dire que ça a été compliqué après pour elle. J'ai une amie à ce moment qui traverse des moments difficiles avec son mari, au point de divorcer, mais elle me disait la dernière fois, écoute, les hommes, Elle crache sur tous les hommes en ce moment. Elle ne peut pas voir un homme. Elle ne peut plus donner l'amour à un homme. Quand un enfant est maltraité dès son jeune âge, quand il grandit, qu'est-ce qu'il va produire aussi? Il sera violent aussi et il peut commettre des incivilités. C'est ce que produit le cœur. Nous avons l'impression que la violence prend de plus en plus place dans notre société. Mais ce n'est pas mieux avant, hein? Ce n'était pas mieux avant. Hier, dimanche dernier, nous étions de l'autre côté avec quelques frères et quelques sœurs. Et on se remémorait le temps ancien. On se disait comment le café qu'on se levait, ça sentait bon. On parlait de comment on allait à la plage, comment on était un petit peu fou aussi, en faisant des trucs, sauter dans la mer, en ne voyant pas le danger. On se disait, il y avait la peur, ce qu'on appelle la peur du gendarme. C'était le respect. On se disait, on n'aurait pas osé regarder le voisin ou une grande personne sans lui dire bonjour, parce qu'en rentrant déjà, la ceinture était déjà là. Mais ça on dira que c'était un autre temps. C'était différent. Mais ça ne veut pas dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas la violence non plus. Ça existait déjà. La violence est là. Et on voit cette violence parce qu'on a Internet aussi. Avant, il n'y avait pas tous ces réseaux. Maintenant, dès que tu fais quelque chose, c'est déjà sur les réseaux. Et non seulement ça, c'est sur les réseaux, mais c'est le monde entier qui le voit. Là, ils sont en train de se dire aux informations, ouais, mais la France est mal vue en ce moment, qu'est-ce que ça va être pour les JO? Ils pensent déjà à leurs JO. Et la France est mal vue. Est-ce que les gens vont vouloir venir? Mais tout ça, c'est les réseaux. C'est une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Diffuser des mauvaises choses comme ça sur les réseaux, les gens qui se tuent, etc., moi, je ne vois pas l'intérêt. Et on dit réseaux sociaux. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de social dans tout ça. Bon, bref. Mais après Jérémie, quelques années après Jérémie, Jésus lui-même, il nous dit quelque chose d'intéressant. Matthieu 15, 18, 19. Matthieu 15, 18, 19. Jésus nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes, etc., etc. Bien longtemps après, Jésus reprend et il dit ça. Donc, vous voyez, le temps de Jésus, même si c'est plus proche que Jérémie, mais c'est un peu éloigné de nous quand même. Et pourtant, ça existait déjà. Et note bien, cher frère Paul, et il a repris ce verset. Tous, selon qu'il est écrit, Romains 3, 10, 12, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Pendant que Dieu est encore, pendant que nous sommes encore là, la porte est ouverte, cherchons Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est terrible, hein? Pas même un seul. Et nous faisons partie, hein? Mais seulement nous avons la grâce de Dieu avec nous, toujours. Dieu qui nous pardonne de nos péchés, si nous les confessons. Le psaume 14, verset 3 nous dit: tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. J'avais dit d'éteindre les portables. Alors, Romains 1, versets 18 à 32. Je vous laisse le temps de trouver Romains 1 parce que il est long. La petite lecture est longue. Romains 1, 18 à 32, et on va lire. Vous êtes prêts? Ça fait du bien d'entendre les pages de la Bible dans les oreilles. Alors, Romains 1, 18 à 32. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Donc, nous, on n'a pas d'excuses, hein, selon ce qui est dit là. Et tous les hommes, pas que nous. Hein. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Toute la création montre que Dieu existe. Ils n'ont aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. En gros, les hommes rejettent Dieu. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages. Même quand on ne connaissait pas Dieu, on disait bien, on ne fait pas de bêtises, hein? On se croyait sages. Hein? On était de ce côté-là avant. Mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Et là, la sentence arrive. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes. De sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissante. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Ça veut dire femmes et femmes. Les hommes, de même, délaissent les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'ils ne doivent pas. C'est ce que nous voyons, hein? Les hommes avec les hommes, et même le, quand on a eu le séminaire, il nous a encore parlé de ça. Et quand nous regardons, remontons encore Sodome et Gomorre, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Verset 29. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchancetés, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ingénieux à faire le mal. Ouais, un ingénieur, il travaille, il essaie de... Un ingénieur aéronautique, comment il travaille pour... Il réfléchit comment faire voler l'avion, etc. Mais là, ils sont ingénieux à faire le mal. Ils réfléchissent comment faire le mal. On sort un billet de 20 euros. Et je me souviens très bien quand les billets euros sont arrivés, on nous a dit que c'était inviolable. Ah, c'est pas possible. Eh bien, les hommes, ils ont cherché. Ils ont cherché. Et ils ont trouvé comment violer pour pouvoir faire de faux billets. Et maintenant, il y en a plein. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Regardez les petits jeunes là qui sortent dehors. 13 ans, tu vas brûler une maison. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté. Insensibles, impitoyables. Ils sont insensibles. Il n'y a rien. Moi, je veux dire, quand je vois la jeune mère de 50 ans qui a été tuée par son mari, et il a bien dit, ah non, c'est lui-même qui a appelé la police. Il a dit, ma femme a disparu. Et on découvre après, c'est bien lui qui a été impitoyable, tuer sa femme. Et quand on entend le témoignage des enfants après, les enfants disent ben, qu'il aille en prison, qu'il crève en gros. Impitoyable. Verset 32. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Ils savent. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui le font. Tu le fais déjà, mais tu approuves encore ceux qui le font. Tout ça, ça c'est l'œuvre du diable. Hein? Quand l'homme n'a pas Dieu dans sa vie, la présence de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, c'est toute cette liste-là que nous avons lue du verset 39 jusqu'au 31, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut impérativement que Dieu soit dans nos vies. Que Dieu, la présence de Dieu soit, nous fasse du bien en fait. Parce que quand Dieu n'est pas dans nos vies, ben, on risque d'être pas toute cette liste, mais au moins 1, 2, 3 dans cette liste. Et c'est tout cela que produit encore tortueux. C'est ce que Jérémie nous disait. Nous devons veiller sur notre cœur. Deutéronome 4, verset 9. Il nous disait de prendre garde. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Ce n'est pas une histoire d'un jour, deux jours, hein, ou dans un mois, je fais ça, après je reviendrai. C'est tous les jours que le Seigneur nous dit de veiller attentivement sur notre âme. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Tout ce qu'on a vu, entendu, appris de Dieu, si on ne veille pas sur notre cœur, le diable va l'enlever. Et après, on sera dans cette liste-là. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Là, nous avons un devoir aussi. C'est d'enseigner tout ce que nous avons entendu et vu de la part du Seigneur. En gros, la parole de Dieu. On doit le transmettre à nos enfants. Et à nos petits-enfants aussi. Il y a un homme dans la Bible qui était béni de Dieu. C'est Saül, premier roi d'Israël. Il avait été roi d'Israël, béni. Et il avait constamment la présence de Dieu avec lui. Il est dit qu'à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore venu vivre en nous. Et Dieu, il mettait son esprit sur quelqu'un, sur un prophète. Il pouvait le mettre sur Sarah, par exemple. Et Sarah pouvait dire des choses agréables de Dieu. Il mettait sur ses prophètes. Et souvent, on raconte que les petits prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes Amos, etc., Dieu mettait son esprit en eux pour qu'ils puissent parler de quelque chose que Dieu voulait. Et les grands prophètes, Dieu mettait son esprit en eux plus souvent ou plus longtemps. Parce qu'ils parlaient vraiment de Dieu tel que Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, etc. Donc Saül avait l'esprit de Dieu en lui. Et qu'est-ce que Saül a fait? Saül a désobéi. On ne va pas voir le contexte, quand est-ce qu'il a désobéi, pourquoi. Relisez le livre de Samuel. Si vous ne vous en souvenez pas, vous allez vous remémorer pourquoi Saül a désobéi. Ben, les conséquences de cette désobéissance, parce qu'il y a toujours une conséquence, Saül a perdu sa royauté. Non seulement il a perdu sa royauté, Dieu l'a rejeté, et il a eu, Dieu s'est retiré de lui. Il faut savoir que Dieu s'est, à un moment donné, retiré de Saül. C'est pour ça que Saül avait un mauvais esprit à un moment donné dans sa vie. Non seulement Dieu, quand Dieu s'est retiré de lui, il a perdu sa royauté et ses enfants n'ont pas pu suivre après, parce que normalement, un roi, c'est ses enfants qui devaient prendre la suite. Et on a bien vu que ben, ce n'est pas l'enfant de Saül qui a pris la suite, c'est David. Donc Dieu l'a bien rejeté et Dieu s'est retiré de Saül. Est-ce que Dieu peut se retirer de nous maintenant? Je ne sais pas. Parce que Dieu nous dit que quand il a fait de nous ses enfants, ben, si on confesse nos péchés, il nous les pardonne. Quand un homme pêche, ben, Dieu lui enlève sa protection divine. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Et on a vu la liste tout à l'heure de tout ce qui peut arriver quand Dieu se retire. Mais avec tout ce constat de Jérémie par rapport au cœur de l'homme, souvenons-nous, il a dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître? C'est ça la question. Avec tous ces constats-là, est-ce que le cœur de l'homme peut changer? Ben heureusement que oui, parce que sinon on ne serait pas là. La réponse est simple à cette question. Oui, le cœur de l'homme peut changer. Et il n'y a qu'une personne qui change les cœurs. C'est Dieu. Et tant que nous ne ferons pas le pas de venir ou de revenir à Dieu, eh bien le cœur ne peut pas changer. Moi, l'Éternel, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est la Bible. Hein. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. C'est Dieu qui explore le cœur de l'homme. N'y a que Dieu, par Jésus-Christ, qui est capable de réparer les cœurs, de le transformer, de le changer. C'est pour ça que le Seigneur nous propose, pardon, il nous invite même à choisir le chemin qu'il nous propose. Jésus-Christ a bien dit, je suis le chemin, la vie. D'accord? Le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Donc c'est pour ça qu'il nous propose ce chemin. Et c'est vrai que parfois ça peut être difficile de prendre ce chemin parce que tout ce que l'autre chemin nous propose, ben, il faut avouer que c'est intéressant parfois, hein? Mais le Seigneur nous dit, même si ce chemin est difficile, il est avec nous. Il va nous accompagner sur ce chemin. Sous l'abri de ta présence, tu les protèges. Psaume 31, verset 20 à 21. Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. Verset 21. Tu les abrites en ta présence. Hors de portée des intrigues humaines, tu les caches à l'abri de ceux qui ont recours à toi. Dans la présence de Dieu, Dieu nous abrite dans sa présence. Et c'est vrai que c'est seulement sous l'abri de la présence de Dieu qu'on peut retrouver tout ce qui nous est dit dans Galates. Galates 22. C'est sous l'abri de la présence de Dieu qu'on retrouve la joie. On retrouve d'abord l'amour. Comme on a vu tout à l'heure, la création même témoigne de l'amour de Dieu pour nous. Quand on voit que Dieu nous a donné, par exemple, la mer ne déborde pas. Et j'ai beau réfléchir, comment ça se fait que la mer ne déborde pas? On va me dire, il y a du sel, etc. C'est un mystère. Hein? La mer ne déborde pas. Nous voyons le vent. Nous voyons le vent. Ah! Et nous le sentons. Nous sentons le vent. Nous pouvons penser voir le vent parce que les arbres bougent, mais ce n'est pas le vent que nous voyons les arbres bouger. Mais de nous-mêmes, nous ne voyons pas Dieu. Est-ce que Dieu n'existe pas pour autant? C'est ça l'amour de Dieu. On ne voit pas Dieu. On l'a connu à travers Jésus-Christ. Oui, mais lui-même, est-ce que tu l'as déjà vu? Tu as vu Dieu, toi? Et tu es vivant? Ah, ben... Oui, c'est ça que j'ai dit. Que Dieu existe. Oui. À travers la création, mais lui-même, tu ne le vois pas. Moi, tu me vois là. Tout à fait. Avant la chute, Adam et Ève jouissaient constamment de la présence de Dieu, constamment. Mais depuis la chute et le péché, empêche à l'homme de rentrer constamment dans la présence de Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ arrive pour que l'homme puisse entrer dans la présence de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Il a permis que nous puissions à nouveau entrer dans sa présence à cause de Jésus-Christ. Le voile est déchiré. Et avant de monter au ciel, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Il nous a dit que vous ne serez pas orphelins. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 1, verset 4. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 9. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous accompagne maintenant. Et c'est ça, c'est cette différence que nous avons maintenant avec les anciens. Le Saint-Esprit est venu et vit en nous, et vit, nous vivons par lui, alors que les autres, Dieu mettait son esprit sur eux pour un peu de temps. Et nous, nous l'avons tout le temps avec nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est cet Saint-Esprit qui atteste maintenant que nous avons la présence de Dieu en nous. Mais uniquement par la foi en Jésus-Christ, on ne l'a pas comme ça. Hein? Maintenant que nous lui appartenons, il est présent parmi nous, il est présent en nous, il a fait sa demeure en nous. Et nous sommes sous sa grâce. Si tel est le cas, nous devons, comme le Seigneur nous a aimés, bien, nous devons nous aimer les uns les autres, comme il nous a demandé de le faire aussi. Et c'est vrai que parfois, nous péchons et nous attristons le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que quand nous voyons, nous sentons le vent, nous ne le voyons pas? Et ça ne veut pas dire que le vent n'existe pas. Mais parfois, et je pense que cela est déjà, vous est déjà arrivé aussi, vous avez, en tout cas moi ça m'est arrivé, vous avez l'impression que vous n'avez plus la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas là. Vous dites, tu vas où es-tu? Mais est-ce que pour autant il n'est pas là? Parce qu'il a dit qu'il est, il sera présent avec nous tous les jours. Donc ça veut dire que Dieu est tout le temps présent parmi nous et il est avec nous. Même si parfois nous ne sentons pas sa présence. Et parfois c'est juste pour... Ça peut venir de lui, hein, comme ça peut ne pas venir de lui, hein. Parfois, c'est juste pour éprouver notre foi. C'est seulement sous la présence, à l'abri de la présence de Dieu, qu'on trouve la joie. Et la conséquence pratique de la présence de Dieu, c'est Néhémie qui le disait, hein? La joie du Seigneur, c'est notre force. Le chrétien qui est rempli de la présence de Dieu est rempli de joie. Et tout à l'heure, je vous disais que je suis plus bas que haut, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu ma joie pour autant. On peut avoir des moments difficiles, mais garder sa joie. Et c'est vrai que parfois, on perd la joie parce qu'on ne reste pas en communion avec le Seigneur. Quand on est constamment en communion avec le Seigneur, même quand les moments difficiles arrivent, la joie, on ne la perd jamais. David, lui qui... Il a connu des déboires, hein, David, hein, dans sa vie. Hein. Il a été attaqué de partout, hein, David. Hein. Quand on lit l'histoire de David, on peut se dire, waouh, comment il a fait pour tenir? Mais il le dit, tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence. David était constamment dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il réussissait à vaincre tout le temps. Délice au éternel auprès de toi. C'est le psaume 16, verset 11. Demeurez dans l'amour du Seigneur et garder ses commandements nous permet aussi de rester dans la joie du Seigneur. Seigneur nous dit, demandez et vous recevrez. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Comment garder la joie du Seigneur? Jésus nous donne une réponse dans Jean 15, verset 10. Il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et au verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Garder le commandement du Seigneur permet d'avoir la joie du Seigneur. Et ensuite, il rajoute, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et cette joie ne dépend pas des circonstances de la vie, hein, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas la joie qu'on a quand on reçoit un cadeau à Noël, ou quand on a une maison, ou qu'on a demandé au Seigneur une maison, il nous donne une maison, ou quand tout va bien. Et puis que lorsque les difficultés arrivent, boum, il n'y a plus de joie. Ce n'est pas cette joie. Le Seigneur nous dit, afin que votre joie soit parfaite. C'est seulement sous l'abri de la présence de Dieu qu'on retrouve aussi le pardon. Dieu nous aime et il nous accorde son pardon si nous reconnaissons nos péchés. Il est fidèle et juste, la parole de Dieu nous dit, pour nous pardonner. Et c'est ce Saint-Esprit que Dieu nous a laissé qui est là pour nous montrer que nous sommes dans l'erreur. Et c'est lui qui nous convainc aussi de nous repentir. Et la Bible dit qu'il y a un seul péché qui ne sera jamais pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si on blasphème contre le Saint-Esprit, comment il pourra nous montrer que nous sommes dans l'erreur et pour nous repentir? Ça veut dire en gros que toutes les personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit ne pourront jamais avoir la vie éternelle. Dieu nous a laissé son Saint-Esprit pour qu'il puisse nous accompagner durant notre périple sur cette terre. Le Seigneur nous dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous permet aussi de pardonner et de recevoir le pardon aussi. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. je suis presque à la fin. Supportez-moi encore quelques temps. Quand nous désobéissons à Dieu, Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Son silence ne veut pas dire absence. Mais c'est dans l'obéissance de Dieu que sa présence se manifeste le plus. Et c'est seulement sous l'abri de la présence de Dieu que l'on trouve aussi la paix. J'écouterai ce que dit Dieu, éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Dieu nous parle de paix. Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Et il est venu pour nous parler de paix. Et c'est vrai que quand, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous avons un souci, un problème, Dieu se manifeste aussi par sa paix. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer pour tous ceux qui, par exemple, qui ont déjà perdu un être cher. Malgré cette douleur, on a une sorte de paix intérieure qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la présence de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on a l'impression que tout s'écroule parfois, mais c'est comme si on dit ça comme ça, mais on dit la petite voix. On entend la petite voix qui nous dit « Sois en paix ». On a cette paix, c'est inexplicable. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait tout ça. Et c'est vrai, c'est vrai pour nous, mais c'est aussi vrai pour l'Église que nous sommes. Quand dans une Église, il y a la présence de Dieu, dans cette Église, il y a la paix. Quand on commence à voir qu'il y a des histoires dans une Église, un tel dit ceci contre un tel, commençons à nous inquiéter. Dans l'Église, quand la présence de Dieu se manifeste, ça se manifeste aussi par la paix entre frères et sœurs. Et quand il y a la paix dans une Église, la personne qui franchira la porte sentira automatiquement cette paix. Automatiquement. La parole de Dieu nous déclare « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est ce que je disais, ça dépasse notre intelligence, la paix de Dieu. Et la présence de Dieu ne se manifeste pas forcément par des démonstrations. Parfois, dans certaines églises, et ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Pour constater la présence de Dieu, on voit les gens qui... Alléluia! Des gens qui tombent, qui... Ça ne veut pas dire que la présence de Dieu est là. Parce que par toutes ces démonstrations, on n'a pas ça chez nous. Et pourtant, Dieu est présent dans notre communauté. Et enfin, on va arriver à la foi. La présence de Dieu, c'est... On retrouve la foi aussi. Dieu est là, il veut se révéler, se faire connaître à nous. Il dépend à chacun d'entre nous d'ouvrir les yeux avec un regard de foi et de reconnaître et de sentir sa présence. C'est aussi par la foi que la présence de Dieu se manifeste. Donc, recherchons donc la présence de Dieu, car elle produit des résultats vraiment puissants dans la vie de ceux qui le cherchent. Et l'Éternel nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Isaïe 55, verset 6. Ça veut dire que Dieu est prêt, mais Dieu va s'éloigner au fur et à mesure. Et nous avons une porte, elle est ouverte, elle commence à se refermer petit à petit, parce que nous voyons tous les événements qui se passent, c'est ce que Dieu nous avait dit, que ça allait arriver. Donc ça veut dire que puisque ces événements arrivent, ça veut dire que le retour du Seigneur est proche. Et comme le retour du Seigneur est proche, ça veut dire que la porte commence à se refermer. Je ne sais pas de combien de centimètres hein, par jour ou par... Mais la vérité, c'est que la porte du Seigneur commence à se refermer. La présence de Dieu nous restaure quand on est un peu fatigué, nous console, nous encourage, renouvelle nos forces. Sa présence nous conduit par le Saint-Esprit sur le droit chemin. Il nous guide, sa présence agit en nous. C'est ça qui nous différencie des autres hommes sur la terre, quand nous avons la présence de Dieu. Et je vais terminer, c'est en étudiant la parole de Dieu et en développant une vie de constante, hein, de prière, que sa présence se manifestera le plus dans nos vies. La parole de Dieu, Dieu nous a laissé sa Bible, hein, sa parole. Je l'ai laissé fermer. Mais il ne faut pas la laisser fermer. Il faut l'ouvrir jour après jour. Le Seigneur nous a dit dans Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il a rajouté, médite-le jour et nuit. Méditer, ça ne veut pas dire juste l'ouvrir et lire. Méditer, c'est aller chercher en profondeur ce que Dieu veut dire. C'est ça, méditer. Jour et nuit, ça ne veut pas dire que tu vas aller méditer jour et nuit non plus. Mais c'est constamment. Mais on peut déjà commencer par lire. Si on n'a pas cette pratique, commençons déjà par lire. Au moins, on saura ce qu'il y a dedans. Je vais conclure. Avec deux versets. Un verset que je viens de citer, que je vais reprendre, parce qu'il est bon de toujours reprendre les versets. C'est Ésaïe 55, verset 5, que je viens de lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Recherchez-le de tout votre cœur et désirez sa présence dans votre vie quotidienne. Et enfin, le dernier verset, Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Et on va terminer par là. L'Ecclésiaste, après avoir parlé de sagesse, parce que l'Ecclésiaste, il a parlé beaucoup de sagesse, il a parlé de vanité, il a parlé de plaisir, il a parlé de richesse, il a parlé de temps, il a parlé des épreuves, les dangers de la langue. Et après avoir parlé de tout ça, il termine par un conseil et un avertissement. Écoutons la fin, ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit: crains Dieu et observe ses commandements. Et il rajoute: c'est là ce que doit faire tout homme, pas seulement les chrétiens, tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en justice au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ce que l'Ecclésiaste a, comme ça qu'il a terminé. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen.